Dans la vidéo, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui a répondu « Objectivement, la vie n'a aucun sens. Subjectivement, la vie a un sens. » La vie n'a aucun sens objectivement, c'est aussi ce que pense Richard Dawkins, un athée très célèbre d'Angleterre. Il dit la chose suivante, il dit « L'univers que nous observons a exactement les propriétés attendues d'un monde dont l'origine n'a ni dessein, ni but, ni mal, ni bien. Rien d'autre qu'une indifférence impitoyable et aveugle. Ni dessein, ni but, ni mal, ni bien. » Voilà la conclusion à laquelle arrive Dawkins. Il part du principe qu'il n'y a pas de Dieu, et ça l'amène à conclure que la vie n'a aucun sens, dans l'absolu. Notre vie est un pur hasard. Et je pense que beaucoup de gens arrivent à cette conclusion. S'il n'y a pas de Dieu, la vie est un pur hasard, et il n'y a aucun sens absolu. D'autres arrivent à une autre conclusion. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On trouve, on se donne soi-même un sens personnel à notre vie, donc un sens subjectif. On peut se donner beaucoup de sens différents. On a vu toute une foule, la carrière, la famille, la réussite, la renommée, le succès sportif, l'amour de sa vie, un projet humanitaire, le plaisir dans les petites choses, etc. etc. Il peut y avoir autant de sens à la vie qu'il y a d'êtres humains. Et ces sens sont tout à fait valables. Mais ce que j'aimerais pouvoir présenter ce soir, c'est expliquer pourquoi ces sens sont fragiles et comportent des risques. Et ensuite, j'aimerais vous montrer quel est le sens absolu que la Bible propose. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'avoir un sens subjectif créé par soi-même pour sa vie est dangereux, risqué? Si nous créons nous-mêmes le sens de notre vie, si nous choisissons le sens de notre vie, c'est notre tâche ensuite de l'atteindre. Le risque est très élevé qu'on perde le sens de notre vie. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé il y a environ une année et demie en arrière. Je me suis rendu compte que le but principal de ma vie était très relatif à moi-même, même si j'étais déjà chrétienne. J'étais en réalité très fortement guidée par un besoin profond de réussite, de marquer l'histoire, de faire une différence. J'avais vraiment envie que mes actions changent le monde. Je rêvais d'avoir un jour ma propre page Wikipédia à mon nom. J'espérais qu'à mon enterrement, il y aurait des milliers de gens. Et qu'un jour, au fin fond du Turkménistan, les gens disent « Ah, c'est quoi la Suisse? Ah, c'est le pays d'où Elisa Mélan vient. Wow. » C'était le rêve de ma vie. Et l'idée de disparaître et que personne ne se souvienne de moi était juste insupportable. J'ai fait une année d'échange en Angleterre et je me souviens quand je revenais, dans le train, j'ai réalisé « Mais Elisa, dans une année, tous tes amis que tu as connus en Angleterre, ils t'auront oublié. Dans 10 ans, j'aurais perdu la plupart de mes proches de vue. » Et dans 100 ans, probablement, ma famille sera morte. Et si j'ai pas d'enfant, personne ne se souviendra de moi. Et en fait, cette pensée était juste atroce. Parce que si c'est le cas, ma vie aura juste été un clin d'œil sur la terre, juste une blague, une grosse blague. C'était donc une idée qui me terrifiait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ce sens à la vie que j'avais, ce sens de devenir éternel quelque part par mes actions. Et pourquoi est-ce que j'ai perdu ce sens-là? C'est parce que, en fait, je suis passée au travers d'un burn-out. Donc il y a une année et demie en arrière, j'ai fait une crise, épuisement émotionnel, incapable d'assumer mes responsabilités, incapable de continuer mes tâches. Et je me sentais de plus en plus faible. Donc le burn-out, ça impose une certaine faiblesse. On se sent soudainement faible, incapable de réaliser ce qu'on doit réaliser. Et face à ça, j'ai réalisé que mes objectifs étaient tout simplement inatteignables. J'allais devenir quelqu'un de banal qu'on oublierait dans 100 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. J'ai commencé à m'imaginer une différente manière de mourir, parce que je me suis dit, je ne peux pas atteindre le sens de ma vie. Si c'est pour être quelqu'un de banal comme tout le monde, autant ne pas vivre. Ça ne vaut pas la peine. Et en fait, c'est bien le problème avec tous les sens subjectifs qu'on se crée pour soi-même, c'est que c'est avec nos forces qu'on doit atteindre ces sens. Et quand on commence, on a toujours l'impression qu'on va avoir la force d'atteindre nos objectifs. Et moi, j'ai été surprise par la faiblesse. Surprise de voir que parfois on n'arrive pas là où on aimerait. Et je pense qu'il peut se passer la même chose dans les temps de souffrance ou d'insatisfaction ou face à la mort. Face à la mort, on se rend compte de la futilité du sens. Alors, quelle solution nous reste-t-il? Quelle solution la Bible propose? La Bible, elle propose un sens à la vie qui n'est pas créé par l'humain mais créé par Dieu et qui ne tourne pas autour de l'humain mais qui tourne autour de Dieu. Et pour ça, j'aimerais présenter un passage biblique. Je laisse faire. Ouais. Super. Donc, on pourrait choisir d'autres textes bibliques qui parlent du sens de la vie, mais j'ai choisi celui-là. C'est issu d'une lettre que Saint Paul a écrite aux Éphésiens. C'est une lettre qui tournait entre toutes les églises, qui était destinée à tous les chrétiens de l'époque. Et dans cette lettre, Paul dit la chose suivante. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est un texte compliqué, mais on va avoir l'occasion de découvrir ensemble. Pour moi, ce texte, il répond aux trois questions qu'il y a derrière le sens de la vie. Donc le sens de la vie, selon notre très cher ami Wikipédia, grande référence, c'est quelle est l'origine de la vie, quelle est la nature de la vie, et quelle est la finalité, le but. Ce texte nous dit que l'origine de la vie, c'est d'exister parce que Dieu l'a voulu. Notre origine, c'est que Dieu a voulu qu'on soit là. La nature de la vie, c'est de vivre une relation avec Dieu, donc d'être ses enfants adoptifs. Et finalement, la finalité, le but de la vie, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Alors, je vais reprendre chacun de ces points. L'origine de la vie, donc Dieu nous a choisis avant la création du monde. Nous faisons partie de l'immense projet d'amour de Dieu. Pas comme si Dieu avait un projet et au fur et à mesure, il recrutait des gens, mais comme si tout à l'origine, il nous avait choisis, avant même de faire le monde. Nous étions déjà la pièce centrale de son œuvre. On est déjà l'élément central de son projet. Est-ce que ce n'est pas bouleversant de se dire que Dieu, le créateur de toutes choses, nous accorde autant d'importance? Je pense qu'on est tous touchés par ça. On a tous un désir profond d'être choisi. D'ailleurs, ça se voit beaucoup dans les films. Dans tous les films, j'ai l'impression qu'il y a cette personne un peu banale, ordinaire, qui tout d'un coup devient un héros. On peut penser à Neo, de Matrix, Anakin Skywalker, de Star Wars, l'élu le spécial dans le Lego Movie. On aime ces films parce qu'on a besoin de sentir que derrière notre vie ordinaire, il y a un appel unique et que nous sommes choisis pour quelque chose de plus grand. Mais la différence avec tous les mythes des films, la réalité en laquelle personnellement je crois, c'est que Dieu nous a choisis et il nous aime et il nous montre des preuves de cela. Et la preuve, c'est qu'il est venu lui-même sur Terre en Jésus-Christ. Et c'est un événement historique reconnu qui divise l'histoire de l'humanité en deux, avant et après Jésus-Christ. Et Dieu a prouvé son amour, il a prouvé son intérêt pour nous en venant directement. Et on peut tester cela en explorant l'histoire de Jésus et les preuves de l'existence de Jésus. Donc ça, c'était pour l'origine de la vie. Deuxième point, quelle est la nature de la vie selon la Bible? Quel est ce projet auquel Dieu nous a destinés? Est-ce que le projet de Dieu, c'est simplement qu'on soit chrétien, qu'on aille à l'église une fois par semaine et qu'on ne fasse pas de bêtises? Non, en fait, le projet de Dieu, c'est qu'on soit ses enfants adoptifs. Le projet de Dieu est avant tout relationnel, c'est une relation entre lui et nous. Notre raison d'exister sur Terre, c'est l'amour. Ça, c'est incroyable. Notre raison d'être là, c'est de devenir enfant de Dieu et de faire partie de la famille de Dieu. Une immense famille interculturelle, intergénérationnelle, même entre la Suisse et la France. Et comment est-ce que c'est possible? Le texte le dit. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. On l'a dit un peu tout à l'heure, mais pourquoi par Jésus-Christ? Parce qu'on est bien trop imparfait pour avoir accès à Dieu. Et ce n'est pas à force de bonne œuvre qu'on peut accéder à Dieu, mais c'est par Jésus. On est incapable d'être parfaitement pur, et c'est Jésus, le seul être humain qui a été parfait sur cette terre, qui prend nos fautes et qui, en les prenant, nous rend purs. La troisième question, quelle est la finalité, quel est le but de la vie? Pourquoi on est là? La finalité de la vie, selon ce texte, c'est de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés. Célébrer la gloire de sa grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Célébrer, oui, vous avez bien entendu, le but de la vie, selon la Bible, c'est de célébrer, c'est de faire la fête. On est ici pour faire la fête, c'est une bonne nouvelle, non? tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On va célébrer quoi ? La grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau, c'est une bonté, la bonté de Dieu. On va célébrer la bonté de Dieu. Le fait qu'il nous accepte dans sa famille, alors qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Personnellement, j'ai eu une discussion très intéressante avec mes parents il y a 2 semaines. On a parlé d'héritage. Voilà. Je me suis rendu compte que mes parents étaient plus riches que ce que je pensais. Bonne surprise. Vous allez croire que je suis hyper attachée à l'argent, mais c'est pas grave. Et en fait, en discutant avec eux, je me suis réalisée qu'ils avaient prévu de partager leur héritage avant leur mort, donc prochainement. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, mais waouh, bientôt, il y a une masse d'argent qui va me tomber dessus et je vais peut-être avoir la garantie d'avoir assez d'argent pour vivre pour les 30 prochaines années. Et pour moi, c'était juste un choc et je me suis dit, mais comment c'est possible ? J'ai rien fait, je n'ai rien fait pour naître dans cette famille. C'est purement un cadeau, je suis née, j'ai rien fait pour naître, je ne me suis pas donné naissance. C'est juste le pur cadeau d'être en vie. Et ça me tombe dessus comme ça, ce privilège. Et de même, on a tous le privilège d'être nés ici en Europe, où on a hérité de la démocratie, de la richesse de l'Europe. Et on n'a rien fait pour en arriver là, pour avoir ce privilège. Et de la même manière, mais de manière encore plus éblouissante, on a le privilège de pouvoir hériter de Dieu et de faire partie de sa famille. Pas par nos efforts, mais un pur cadeau qui tombe du ciel. Et pas pour les 30 prochaines années, mais pour l'éternité. Et ça commence aujourd'hui. Et ça, mes amis, c'est un immense sujet de joie. Et on va pouvoir passer notre vie à le célébrer. Et c'est ça le sens de la vie. Célébrer cet immense amour. Face à tout ça, on peut se dire, mais est-ce que c'est pas un peu égocentrique tout autour de Dieu ? Dieu, il crée juste des êtres humains pour que les êtres humains le célèbrent. Parce que Dieu n'est pas un peu obsédé par lui-même. Pour y répondre, j'ai juste envie de donner une métaphore. Je ne pense pas qu'on se plaigne du fait que tout le système solaire tourne autour du Soleil. C'est juste une évidence. Vu sa masse, vu son importance, c'est l'évidence fait que tout le reste tourne autour de lui. Et je pense que pour Dieu, c'est pareil. Il est d'une telle importance, d'une telle puissance, d'une telle magnificence que c'est normal que les choses tournent autour de lui. C'est normal que notre vie tourne autour de Dieu. Voilà, donc pour résumer, oui, la vie a un sens. On peut même choisir soit d'avoir un sens personnel, relatif, ou un sens absolu que Dieu nous propose. Bien que les sens personnels sont valables, ils posent la question de est-ce qu'on va réussir à tenir les standards de nos propres exigences ? Est-ce que la faiblesse ne va pas nous frapper en cours de route, comme ça m'est arrivé ? Et le sens de la vie que Dieu offre, c'est donc qu'on a été choisi avant la création du monde, qu'il veut que nous soyons ses enfants, et que c'est un sujet à célébrer.